France Culture.
Le président Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui au salon Vivatech qui se tient à Paris jusqu'à samedi. À l'occasion de cette visite, l'Élysée a mis en lumière l'ambition d'une souveraineté numérique européenne. L'impact croissant de l'intelligence artificielle sur le travail est au cœur des débats contemporains. Pour les travailleurs, notamment les plus précaires, la crainte d'être remplacé par ces technologies grandit. Alors que promet véritablement l'IA en matière d'emploi? Un cataclysme, de nouvelles opportunités ou bien aucun de ces deux mythes? Pour en débattre, deux invités ce soir. Malo Mokafami, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences économiques, maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord, affilié au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM, le Centre national des arts et métiers, et vous avez contribué à l'ouvrage collectif intitulé « Que sait-on du travail ?» qui a paru aux presses de Sciences Po. Face à vous, Gilles Babinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coprésident du Conseil national du numérique et vous avez signé « Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat ». C'est aux éditions Odile Jacob. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Ils veulent que les ordinateurs et l'intelligence artificielle remplacent les vraies personnes qui travaillent dur.
L'IA, c'est clairement la pelleteuse par rapport à la pelle et la pioche. Ça permet d'améliorer de façon très significative l'efficacité du travail.
Ce côté réflexion, démarche intellectuelle, ça c'est sûr qu'elle ne pourra pas l'avoir, cette sensibilité-là, des échanges qu'on aura avec un client.
Le problème, c'est qu'on analyse une technologie en soi avec les impacts directs, mais l'impact cumulé de deux révolutions technologiques, on peut prendre l'intelligence artificielle et la robotique, peut conduire à une destruction encore plus massive.
Les entreprises vont profiter de ces gains de productivité pour embaucher. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui vont perdre leur emploi ne vont pas être embauchées sur les nouveaux emplois créés parce que ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont nécessaires.
On a vu des sociétés comme Nokia qui ont complètement disparu à l'arrivée de l'iPhone. On a vu des sociétés comme Kodak qui ont également disparu parce qu'elles n'ont pas cru à l'appareil photo numérique. Les entreprises qui ne se mettront pas à l'intelligence artificielle aujourd'hui ont un grand risque de disparaître.
Gilles Babinet, c'est avec vous que je commence. L'hebdomadaire Le Point, dans un article sur l'intelligence artificielle, titrait la semaine dernière « La Silicon Valley redoute un bain de sang chez les cols blancs ». Est-ce qu'en matière d'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, on en fait beaucoup trop ou pas assez, justement?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes différences de perception entre les gens qui sont dans l'intelligence artificielle, donc les gens de la Silicon Valley, et puis les gens qui sont dans le monde académique et plutôt dans la sphère économique. Donc, Daron Acemoglu, qui est le dernier prix Nobel d'économie et qui s'est intéressé à la productivité de l'intelligence artificielle, a un peu scandalisé les premiers en disant « Je ne vois pas de productivité se manifester, donc qui détruirait l'emploi, avant 2030, et probablement, en tout cas dans les premières années, des gains qui sont marginaux. »
Lui, il dit même pour l'instant « On n'observe pas d'innovation de rupture. »
Oui, il dit ça. Je pense que moi, je me situerais un peu entre les deux. C'est-à-dire, je pense qu'on peut, effectivement, vous avez dans votre sonore là quelqu'un qui disait en alliant les technologies mécaniques avec l'IA, on peut faire un certain nombre de choses. Si vous voulez, on est face à une équation qui a trop d'inconnus pour faire des prédictions. Il se trouve, ce week-end, j'ai déjeuné avec quelqu'un qui est un chercheur assez avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je disais, mais t'arrives à voir à combien de temps? Il me disait, j'arrive à voir sérieusement à 6 mois. Vous voyez, donc, comment les gens qui sont au cœur de la machine, ils vous disent, mais en réalité, il faut faire très attention, on peut avoir un mur, tout le monde parle du mur de l'IA comme une hypothèse, et puis on peut avoir des problèmes que ceux mis en avant par un papier d'Apple récemment, c'est une grande difficulté à adresser des taxes et des tâches qui nécessitent de comprendre le contexte dans lequel elles se situent. Donc tout ça, c'est des facteurs qui vont libérer ou pas la productivité, donc il faut faire attention. Et je crois que la posture raisonnable, c'est de se préparer, mais en ayant à l'esprit que le scénario de gain important de productivité, ce qui en soi n'est pas forcément d'ailleurs un problème pour l'emploi, n'est pas certain.
Malo Mofakami, une autre citation de quelqu'un qui est dans le secteur de l'intelligence artificielle. Une citation inquiète à nouveau. Il s'agit de Dario Amodei, le co-créateur de l'entreprise Anthropic. Il dit jusqu'à 50% des emplois de bureaux d'entrée de gamme pourraient disparaître d'ici 5 ans. Le taux de chômage pourrait grimper à 10 à 20%. C'est ce qu'il affirmait dans une interview donnée à CNN. Est-ce que là encore c'est trop pessimiste ou en tout cas, j'allais dire trop optimiste parce qu'il prétend pouvoir voir au-delà de 6 mois, justement.
Oui, alors c'est une très bonne question. Tout d'abord, merci de l'invitation. Je vais m'inscrire vraiment dans la continuité des propos de Gilles Babinet. C'est-à-dire qu'il y a en fait un fossé assez important quand même entre ce que vont dire les personnes qui travaillent dans le milieu de l'IA, c'est-à-dire soit les chefs d'entreprise ou les ingénieurs qui développent ces technologies, qui voient leur potentiel.
Alors pourquoi on aurait pu attendre le contraire. On aurait pu, espérer entre guillemets que ces gens-là nous vendent leur technologie en prétendant qu'elle n'aura qu'un impact faible sur l'emploi et sur la société.
Oui, mais parce que c'est justement aussi la peur agitée qui permet à ces entreprises de dire il faut pas que vous ratiez le tournant, sinon vous allez subir ces destructions d'emplois, votre entreprise, on l'a entendu aussi dans les témoignages, votre entreprise va disparaître comme les grands industriels du passé. Donc c'est un discours qui peut être alimenté aussi par cet objectif, et puis au-delà de ça, on peut être tout à fait impressionné par sa technologie en laboratoire, ou disons, je sais pas si on parle de laboratoire pour les technologies d'IA, mais disons dans son espace de développement, et puis en fait, quand ça arrive dans l'économie réelle, c'est bien différent. Et les économistes, en général, sont un peu plus prudents. Alors après, vous avez quand même, et notamment, il y a un papier très très célèbre qui a été publié en 2017 par Frey et Osborne, qui avait essayé d'estimer les premiers impacts qu'aurait la première vague de technologie numérique. Alors 2017, on n'a pas encore l'intelligence artificielle dite générative, donc on était sur des technologies qui étaient un peu moins prometteuses, mais qui étaient quand même déjà assez impressionnantes, et ils avaient prédit que 47% de l'emploi aux États-Unis était fortement exposé au risque d'automatisation dans les prochaines années. On est en 2025, alors on n'est pas tout à fait à plus 10 ans, mais enfin on n'est quand même pas très très loin. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on est plutôt pas du tout sur une automatisation des métiers prédits. Et même quand on regarde par exemple les problèmes de besoin de main-d'œuvre, on voit que certains types d'emplois qui étaient très hauts dans le risque d'automatisation, comme par exemple les conducteurs, les chauffeurs ou aussi certains métiers dans la restauration et l'hôtellerie sont en fait insuffisants. Donc on a plutôt le phénomène inverse. Et aujourd'hui, des études beaucoup plus modestes en réalité, puisque les études les plus précises, alors Daron Acemoglu est vraiment très critique et il pense qu'il n'y aura pas en effet des effets très importants, mais même les économistes qui ont la vision la plus importante sur la productivité, je pense notamment par exemple en France à mon collègue Antonin Bergeau, il parle plutôt de 10% des métiers fortement exposés et même pas entièrement, juste pour certaines tâches effectuées dans ces métiers. Voilà. Et au niveau du Bureau international du travail, on estime plutôt à 13% des métiers qui vont être fortement impactés, mais qui vont pas forcément disparaître pour autant. Donc on est sur des ordres de grandeur bien plus faibles.
Bon, alors on comprend que c'est difficile de prédire l'avenir, Gilles Babinet. Néanmoins, quand on regarde le marché de l'emploi actuel, certains secteurs, certaines tranches même d'emploi sont fortement impactées d'ores et déjà. Quand on prend le marketing, la communication, le design, certaines tâches répétitives, elles sont d'ores et déjà bouleversées par l'intelligence artificielle et donc menacées, non ?
Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'économie normale, en réalité. C'est-à-dire que vous avez des innovations qui arrivent dans tous les domaines.
C'est la destruction créatrice.
Oui, quand vous inventez Photoshop il y a 20 ou 25 ans, je pense que l'impact sur les gens qui faisaient des dessins à la main a dû être considérable là-dessus. Donc là, c'est assez brutal parce que tout d'un coup, c'est vraiment une recomposition de la façon dont on produit des images par rapport à ce qui préexiste. Le métier de traducteur, c'est des métiers qui disparaissent, pour ainsi dire. Mais je ne vois pas quelque chose de différent par rapport au cycle économique de l'innovation tel que je les ai vus auparavant. Et on va probablement voir, par exemple, dans un métier qui m'est proche, qui est celui du code, la productivité est probablement en train de croître de façon extrêmement forte, peut-être d'un facteur 2, 3. C'est-à-dire, quand vous prenez un codeur, il fait 3 fois plus de boulot dans le même temps à cet égard. Mais à ça, il y a plusieurs observations qu'il faut faire. C'est que d'abord, c'est l'histoire du code. Il y a 20 ans, il n'y avait pas AWS, il n'y avait pas GitHub, des outils qui sont des outils de productivité extraordinaires. Et je pense qu'en 25 ans, les codeurs, ils ont dû avoir un facteur 3 de productivité. Et puis deux, c'est que bah, il y a du code partout. Demain, il y en aura absolument dans chaque objet. Et donc, c'est pas dit que, pour reprendre exactement ce que vous évoquiez, finalement, on se retrouve pas à avoir des métiers en tension. Et alors aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un truc hyper marrant, il y a moins 27% d'offres d'emploi. Et donc, on fait des interviews, on va voir les entreprises, et elles prennent les micros pour dire oh, « Ouais, mais c'est l'IA, vous rendez pas compte, et tout ça. » Parce que c'est beaucoup plus sympa de dire que c'est l'IA, que c'est les politiques complètement absurdes de Trump qui font qu'ils sont obligés de se séparer d'une partie de leur force de travail, quoi.
Est-ce que ça dépendra pas aussi fondamentalement et très très largement, Malo Mofakami, de la stratégie que mettront en place les entreprises? Une entreprise qui voudra réduire ses coûts, par exemple, profitera certainement de l'intelligence artificielle pour diminuer sa masse salariale. En revanche, une entreprise qui voudra, elle, peut-être augmenter la qualité de sa production aura une stratégie tout autre et profitera de ses gains de productivité pour embaucher différemment.
Tout à fait. Et c'est ça qui fait que c'est très difficile de prédire l'effet, j'allais dire, macroéconomique, c'est-à-dire agrégé. En fait, on observe plusieurs comportements stratégiques différents. Par exemple, dans des travaux que j'ai pu conduire, on voit qu'en fait, les entreprises qui sont souvent considérées comme les leaders d'un point de vue d'innovation sont en fait des entreprises qui vont plutôt bénéficier à l'emploi. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt avoir tendance à embaucher du fait des gains de productivité, mais qui sont des gains de productivité pas tellement parce que la quantité de travail est plus importante pour les travailleurs quand ils l'effectuent, mais plutôt parce que les débouchés en termes de marché s'accroît par des innovations de produits qui trouvent des débouchés. On est clairement dans ce cas de figure dans les grandes entreprises, les GAFAM ou les grandes entreprises de la tech américaine qui en fait voient plutôt et qui tirent en fait la productivité américaine. Donc quand on dit les États-Unis sont en avance parce qu'ils adoptent massivement les nouvelles technologies, en réalité c'est surtout qu'il y a des grandes entreprises de la tech qui elles font des profits très importants et qui tirent la productivité. Mais si vous allez par exemple dans un restaurant ou dans un hôpital aux États-Unis, un hôpital moyen, je veux dire évidemment il y a des hôpitaux très high-tech, mais on ne va pas être à des niveaux d'adoption de technologies qui sont si importants.
Les restaurants sont pas mieux que les nôtres.
Les restaurants sont pas tout numérisés avec des robots. Voilà. Et pourtant, les gains de productivité sont importants. Donc, il y a ces entreprises qui tirent et qui vont plutôt avoir tendance à embaucher. Et puis ensuite, vous avez en effet des logiques de réduction de coûts. Mais là aussi, je vais faire appel à mon éminent collègue Daron Acemoglu qui a eu un prix Nobel et qui dit assez bien, il dit en fait le problème c'est que là-dessus aussi il y a un phénomène de mode que les entreprises ont, c'est-à-dire qu'elles adoptent en pensant pouvoir réduire les coûts, mais la réalité est pas toujours celle qu'on observe. C'est-à-dire que la plupart des études montrent que des fois l'adoption de technologies a plutôt même des effets soit très limités sur la productivité, soit même négatifs, parce qu'en fait, adopter une technologie, on a souvent cette image un peu qu'on enseigne des fois en économie pour nos étudiants de première année, c'est-à-dire que la production, c'est du capital et du travail. Mais en fait, au-delà de ça, pour que ce capital et ce travail fonctionnent bien, il faut une certaine forme d'organisation, un apprentissage, beaucoup de connaissances dites tacites, c'est-à-dire que les travailleurs et travailleuses doivent apprendre à utiliser leurs outils. Et ça, ça perturbe beaucoup. Et à l'heure actuelle, on observe beaucoup de phénomènes de perturbation du fait de l'adoption de ces technologies qui nécessitent une réorganisation, des nouveaux indicateurs chiffrés, des tâches qui évoluent, qui changent. Et là où peut-être j'apporterai une nuance par rapport à ce que disait Gilles Babinet, moi je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'on a des cycles qui se répètent. Peut-être que la nouveauté du moment, c'est que les cycles sont plus courts et qu'on a des vagues qui s'enchaînent de manière très rapide. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'article que je vous citais sur les anciennes technologies numériques, on est encore dans une diffusion des anciennes technologies numériques et on a l'IA générative qui vient se coupler. Donc en fait, peut-être que la dynamique des innovations, et pas forcément leur côté rupture, s'intensifie et que ça pose finalement peut-être beaucoup de problèmes parce que les humains ne sont pas des machines et il leur faut du temps pour s'adapter. Et si on regarde par exemple l'exode rural lié au progrès dans l'agriculture, ou ensuite dans l'industrie, ça s'est fait sur des périodes plus importantes, sur des générations, ce qui permet aux gens soit de se former, soit d'aller à la retraite et d'avoir une nouvelle génération formée. Aujourd'hui, on demande aux gens d'avoir plusieurs métiers dans une vie. Et ça pose quand même des vrais problèmes en termes d'organisation.
Gilles Babinet, la conséquence de ce qui est décrit là, ce sont des cycles plus courts, donc des transitions plus rapides, plus coûteuses aussi peut-être pour les travailleurs.
En fait, moi, je suis totalement d'accord sur l'idée de resserrement des cycles d'innovation. D'abord parce que il y a un déblocage technologique, c'est-à-dire qu'on a trouvé au travers de quelques publications sur les LLM, sur ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels, vraiment des choses qui débloquaient cette intelligence artificielle. Et puis aussi parce que on n'a jamais mis autant de capitaux au travail. Il y a 1000 milliards qui ont été injectés en l'espace de 4 ans dans l'intelligence artificielle. Dans l'histoire économique, c'est jamais arrivé. Et donc, quelque part, ça débouche sur des techniques qui ressemblent à des outils de productivité. Et effectivement, ça arrive tellement vite. Et en plus, quand vous commencez à adopter le premier produit, il y a la nouvelle génération du produit qui arrive. Et donc, ça crée des distorsions sur le marché du travail qui sont effectivement assez importantes. On parle, il y a une grande fascination pour les techniques, il y a un désintérêt absolument total sur les modèles d'organisation qui permettraient de débloquer le potentiel des techniques.
On va y venir évidemment sur les modèles d'organisation, sur l'organisation du travail, sur l'organisation aussi de la protection sociale. Est-ce qu'on est prêt justement à protéger des carrières, j'allais dire, faites de ruptures plus nombreuses ? Je voudrais vous faire entendre la voix de Sam Altman, le cofondateur et PDG d'OpenAI, qui tente de revoir la définition même du travail.
Des personnes perdront leur emploi, mais de nombreux nouveaux emplois seront créés et je pense qu'ils seront bien meilleurs. Nous nous sentons responsables d'éduquer la société, nous aurons raison sur certains points, tort sur d'autres, et nous ferons de notre mieux pour être les gardiens de cette technologie. Tout le monde n'appréciera pas tous les impacts, mais c'est en train d'arriver. La définition du travail va changer. Si un agriculteur qui vivait il y a des milliers d'années regardait ce que vous et moi faisons aujourd'hui, il dirait que ce n'est pas vraiment du travail. Il penserait que l'on s'amuse. Je pense qu'une fois que ces robots auront effectué toutes ces tâches, nous ne nous soucierons plus vraiment de ce qu'ils font. De la même manière qu'aujourd'hui, nous ne nous préoccupons pas des machines qui fabriquent des choses pour nous dans les usines. Nous trouverons d'autres choses à faire qui nous intéressent vraiment.
Bon, sans vous contredire l'un et l'autre, on a là quelqu'un, Sam Altman, qui est de l'intérieur du système qui pense, qui crée l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et qui est très optimiste. Il nous dit l'IA va créer de nouveaux emplois, il va même améliorer la qualité de l'emploi, Malo Mofakami.
Oui, alors bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions en fait dans son discours. C'est qu'il y a d'un côté, il va y avoir une amélioration de l'emploi, puis après en fait l'emploi va peut-être devenir un peu un jeu, puis finalement il y aura peut-être plus trop d'emplois. Donc en fait on est sur plusieurs idées qui sont en fait toutes les idées un peu positives mélangées. Et donc là on est clairement, je pense, dans un discours qui vise à dire que tout va bien se passer, investissez dans ces nouvelles technologies et les choses ne seront que meilleures. Sans me porter en faux sur tous les aspects, on peut voir hein, des formes d'amélioration et notamment ça a été un peu ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire que si on regarde la vague précédente d'adoption des technologies numériques, on a plutôt eu un effet de remplacement d'un certain nombre de tâches dites routinières qui sont pas les plus stimulantes ou les plus intéressantes, notamment par exemple dans le monde administratif, voilà, quand on est employé de bureau, ben on avait beaucoup de tâches un peu d'administratives, donc par exemple la tenue des agendas, l'organisation des réunions, etc. Ben tout ça maintenant on a des outils numériques qui nous aident. Mais là aussi, il faut faire attention parce que ces outils numériques font que, bah, aujourd'hui, en fait, on va supprimer des emplois qui avant les faisaient parce que maintenant, les cadres peuvent eux-mêmes gérer leur agenda. Mais en gérant leur agenda, ils se trouvent finalement à gérer leur agenda mais le week-end, le soir, etc. et tout. Et donc, il y a des phénomènes de perturbation aussi qui peuvent arriver. Et en fait, quand on s'intéresse à est-ce que les technologies vont vraiment améliorer les choses, je pense qu'il faut avoir une vision du modèle des tâches qui maintenant fait un peu consensus en économie. C'est-à-dire de dire que la production, c'est un ensemble de tâches qui doivent être effectuées soit par des humains, soit par des machines, évidemment toujours en complémentarité. Et les nouvelles technologies, quand elles sont adoptées, il s'agit de savoir quelles sont les tâches qui vont maintenant passer de l'humain à la machine. Des fois, on peut même avoir des cas de figure où ça passe de la machine à l'humain, mais ça, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et puis surtout, quelles sont les tâches qui vont disparaître et les nouvelles qui vont être créées. Et dans cette complémentarité, il y a des gagnants. Et puis, il y a des perdants. Et donc, du côté des gagnants, on a évidemment plutôt les cadres, même s'il peut y avoir des effets négatifs, j'y reviendrai. Et l'aspect le plus positif, c'est que les tâches les plus routinières vont être un peu réduites, puisque laissées aux machines. Et puis, les cadres peuvent être plus créatifs, les codeurs peuvent coder plus vite, ils peuvent avoir des idées plus innovantes, etc. Mais dans cette complémentarité, il y a aussi des perdants. Et notamment, si on s'intéresse par exemple à un secteur qui est en pleine croissance, qui est le secteur de la logistique, qui a été bien documenté par mes collègues sociologues qui ont travaillé sur ce secteur. En fait, qu'est-ce qu'on observe dans la logistique ? On a des métiers assez peu qualifiés, mais qui nécessitaient quand même une certaine formation. C'est-à-dire qu'un ouvrier ou une ouvrière en logistique devait connaître son entrepôt, savoir comment bien faire ses palettes, où aller chercher les colis pour les faire bien et rapidement. Et le temps de formation était estimé environ un mois. Depuis l'arrivée des nouveaux systèmes de commandes vocales par intelligence artificielle, en fait, le temps de formation est passé à une journée. Et maintenant, les travailleurs et travailleuses ont un casque qui leur dicte le chemin à faire dans l'entrepôt.
Donc ils exécutent et c'est l'IA qui prend la décision.
Tout à fait. Donc en fait, le peu de décisions et de tâches un peu créatives, donc de connaissances tacites qu'ils devaient accumuler, qui faisaient aussi leur pouvoir de négociation, leur capacité à rester, à transmettre aussi des choses, a été complètement cédé à l'intelligence artificielle. Et la partie robotisée du geste et du métier, c'est-à-dire de porter des colis, en fait, c'est l'humain et c'est pas le robot qui l'a pris. Donc le robot a pris la partie intelligente du travail. Et on a un certain nombre de métiers où on voit ces logiques de re-routinisation ou de re-standardisation du travail. Et on peut l'observer même dans des métiers, dans les services ou même dans des métiers de cadre, où des fois, avec ces management algorithmiques, on cherche en fait à re-standardiser le travail. Et donc les conditions ne s'améliorent pas du tout autant qu'espéré.
Je voudrais qu'on quitte un instant la description de ce nouveau marché du travail qui émergerait au conditionnel dans quelques années pour se concentrer sur ce que vous disiez un peu plus tôt dans cette discussion, Jules Babinet. Cette période de transition qui va avoir lieu, est-ce qu'on va au-devant de quelques années tout de même difficiles, des années où il faudra ce temps pour que les entreprises s'approprient la technologie, pour que, j'allais dire, les gens se forment et pour que ce nouveau marché émerge?
Écoutez, moi je pense que c'est pas très rassurant, effectivement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que à l'échelle macroéconomique, il n'y a pas d'antitrust, et donc il n'y a pas de capacité.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
À faire en sorte qu'il y ait un marché qui soit assez concurrentiel et que la valeur soit restituée aux travailleurs. Donc si vous avez un service d'intelligence artificielle qui est capable d'aller deux fois plus vite, mais qui vous coûte 500 euros par mois ou qui vous prend la moitié de votre salaire, ben celui qui empoche les gains de productivité, c'est le possesseur de cette machine, entre guillemets, et on n'est pas au mieux par rapport à ça. D'abord, vous avez une cartélisation américaine sur ces sujets, et puis vous avez un désintérêt de pas mal d'autorités d'avoir une expression politique à l'égard de cet enjeu. Et ça, c'est très préoccupant. C'est vraiment très préoccupant parce que ça veut dire que, en gros, ça vaut même pas le coup d'essayer de s'organiser en dessous pour faire en sorte que ça se passe bien, parce que vous savez que la valeur, quelque part, il n'y en a pas beaucoup en plus à cet égard.
Donc vous êtes plus inquiet sur la captation de valeur et sur la captation d'une partie des gains de productivité, plus que sur l'impact sur le chômage.
Et puis le deuxième aspect, c'est que vous devez avoir un dialogue social harmonieux. C'est-à-dire faire ce qu'on a été capable de faire quand même pendant un certain nombre d'années, où en fait la productivité suivait à peu près l'augmentation des salaires. Ça s'est rompu à peu près en 1976. Et vous avez eu avant 50 ans où il y a eu cette distribution à peu près égale. Et là, c'est très intéressant parce que ces technologies, finalement, informationnelles, elles permettent de décentraliser le capital et le travail. Travail, c'est très difficile de le bouger. On fait tout pour empêcher que le travail passe d'un pays à l'autre, l'immigration étant au cœur de ce débat. En revanche, on signe des accords qui font que les services numériques sont très faciles à faire véhiculer d'un continent à l'autre là-dessus. Donc vous avez une asynchronicité qui est vraiment en défaveur du travailleur. Et en plus de ça, finalement, une logique d'organisation autour du travail. Je pense que c'est les Britanniques les premiers qui se sont retrouvés à détruire le système de production industrielle. Et puis l'Europe a suivi, à part quelques pays comme l'Allemagne et l'Italie du Nord. Mais ces endroits qui étaient des endroits des bastions syndicaux, pour pas le dire autrement, on le voit comme des marxistes agités, mais c'est aussi le contrat social dans son optimal dont il était question là. Et donc recréer ça sur des tâches qui sont très isolées, parce que les travailleurs qui utilisent de l'intelligence artificielle, c'est assez facile de les isoler. L'exemple le plus commun, c'est Deliveroo. Vous avez difficulté à rencontrer les autres gens pour pouvoir vous mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire.
Et donc une difficulté à créer des collectifs, à se syndiquer,
exactement,
à s'associer.
C'est un enjeu, et je pense que voilà, pour moi, si vous voulez, je pense que on a tout pour faire en sorte que ça se passe bien, mais les conditions du dialogue social, les conditions le contexte politique, le contexte géopolitique font que ça risque de cogner un peu.
Vous êtes d'accord, Malomo Fokami, on a tout pour que ça se passe bien. Moi, quand j'observe, la structuration, l'organisation, par exemple, de la protection sociale, est-ce qu'elle est faite pour accompagner ces ruptures d'emploi, pour accompagner ces périodes de chômage plus nombreuses, pour accompagner aussi ces périodes nécessaires de formation professionnelle? Est-ce qu'on est prêt, là, de ce point de vue-là aussi?
Une bonne question. Alors, je pense que, je ne sais pas si on a tout pour que ça se passe bien, en tout cas, on a beaucoup d'études et beaucoup de travaux, et je vous remercie encore pour l'invitation, parce que ça permet de montrer que beaucoup de chercheurs et de chercheuses travaillent sur ces questions-là. Donc en fait, on a de la matière pour accompagner ces transitions. Le problème, c'est que je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de l'enjeu que ça représente pour le système socio-économique dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on voit les opportunités, mais ces opportunités, elles tombent jamais du ciel. Et comme le disait très bien Gilles Baminet, il y a des vrais enjeux d'organisation du travail. La France, et on l'a documenté dans notre ouvrage collectif sur que sait-on du travail, la France se caractérise par un modèle de management qui n'est pas très bon et qui n'est pas très horizontal, qui a plutôt tendance à être très vertical, avec une vision très ingénieuriste, qui est issue notamment de l'organisation des grandes entreprises françaises et de nos grandes écoles aussi, mais avec un top management qui est assez éloigné des lieux d'exécution du travail et qui a eu tendance à s'éloigner de plus en plus. C'est lié aussi à la structure de notre industrie avec des très grandes entreprises, mais encore plus que les autres pays.
Et donc ça, vous l'expliquez, c'est mauvais pour la diffusion de la culture de l'intelligence artificielle notamment.
Déjà, ça c'est assez mauvais et puis c'est pas très bon aussi pour pallier aux effets négatifs. C'est-à-dire que si on veut les effets positifs, il faut réussir à les équilibrer et si on veut vraiment bénéficier des effets positifs, il faut réduire les effets négatifs. Et les effets négatifs, c'est quoi? Ça va être des conditions de travail qui vont être détériorées, qui ont besoin d'aménagement, par exemple, de conditions de travail. Donc, on peut penser à des formes de flexibilité. L'IA favorise la flexibilité horaire, la flexibilité des lieux, mais à côté de ça, il faut des protections. Il faut des protections pour garantir que cette flexibilité ne va pas être utilisée de manière trop importante.
Donnez-nous un exemple de comment la qualité de l'emploi va être affectée par l'intelligence artificielle. Vous parlez d'horaire, vous parlez même de qualité au quotidien. Si on prend le secteur de la logistique, vous en parliez tout à l'heure, là aussi.
Sur le secteur de la logistique, on est vraiment sur des travailleurs qui sont plus facilement remplaçables, donc ont moins de pouvoir de négociation, donc les salaires vont être tirés vers le bas, donc ils vont pas bénéficier des fruits de ces outils qui vont rapporter des gains de productivité, mais qui vont être captés plutôt par les grandes entreprises, notamment Amazon. Ça c'est un problème, et ces gains de productivité, ils en voient pas le retour. Mais on peut penser aussi à des cadres, c'est-à-dire que le télétravail a eu des effets plutôt positifs, les gens sont plutôt satisfaits, ils disent je peux m'organiser plus comme je veux, mais il y a eu aussi des effets négatifs qu'on documente récemment dans des études sur la santé, puisque il y a une tendance à ramener du travail à la maison, à être de plus en plus contacté en dehors des horaires de travail par son management, par ses cadres, et donc tout ça appelle à des besoins de régulation et des régulations importantes. Et de manière plus générale, et je vais utiliser un exemple aussi de comparaison entre la France et le Japon, puisque je travaille aussi sur des modèles de comparaison. On présente souvent l'IA et les technologies comme inéluctables, qui doivent être adoptées de la même manière partout. Mais en fait, quand on compare la manière dont les technologies ont été adoptées dans le passé et le sont encore aujourd'hui entre les pays, on voit que c'est toute une question de société. C'est-à-dire que c'est une question dans l'entreprise, de savoir qu'est-ce qu'on veut adopter, est-ce que c'est bénéfique pour le travail, est-ce que ça donne du sens, est-ce que ça améliore la productivité, mais aussi à l'échelle de toute la société. Là, ça rejoint les questions de protection sociale. Par exemple, au Japon, qui est un pays qui est très fort en robotisation, vous avez une industrie, un secteur industriel qui est très automatisé, mais dans les secteurs des services, vous allez pouvoir trouver plein de petites supérettes avec des vendeurs et des vendeuses qui sont toujours là pour vous vendre les produits. Alors que les caisses automatiques, elles ont été notamment brevetées au Japon dans les années 80. Et les Japonais savent faire des caisses automatiques depuis très longtemps. Vous en voyez pas partout. Parce qu'il y a une sorte de contrat social tacite qui fait que ces supérettes sont aussi des espaces de socialisation pour les personnes âgées, des espaces de dialogue et d'avoir une personne humaine qui est là pour répondre à ses besoins. C'est aussi important. Tout ça pour dire que dans la manière dont on adopte ces technologies, il y a un débat de société à avoir, il y a un débat dans les entreprises, il faut ouvrir un dialogue social aussi pour voir quels sont les effets qu'on est prêt à accepter d'un point de vue négatif et qu'est-ce qu'on veut comme effet positif en retour pour contrebalancer des potentiels effets négatifs et puis l'enjeu du partage de la valeur qui est absolument central.
Gilles Babinet, un débat en creux d'ailleurs qui se tisse dans vos propos à l'un et l'autre, c'est de tenter de savoir dans le fond si cette intelligence artificielle va augmenter ou diminuer le travailleur. On lit beaucoup, par exemple, que dans le secteur du care, dans la dépendance, dans l'accompagnement des personnes âgées, l'IA va permettre d'augmenter le travailleur parce qu'elle va lui donner des ressources, des informations supplémentaires. Est-ce que là aussi, on est capable de dire, selon les secteurs, quel sera l'impact concret sur l'enrichissement potentiel en termes de compétences de chaque travailleur ?
Je pense que Malo vient de répondre à la question. C'est-à-dire que c'est le contrat social qui se construit. Si vous voulez, moi je vois la diversité, la créativité de ce qu'il est permis de faire avec l'intelligence artificielle. C'est hallucinant. C'est vraiment, on n'a pas juste commencé à gratter la surface du potentiel. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse le plus à cet égard. Je pense qu'on va créer toute une catégorie de nouveaux métiers qui n'existait pas, justement parce qu'on pourra avoir les niveaux de productivité qui permettront de les produire, en particulier dans l'environnement, dans l'économie circulaire. Mais si vous voulez, l'occasion de créer ces nouveaux emplois, par exemple, devrait être l'occasion d'un débat de contrat social, de se poser la question de savoir comment on l'organise. Et si vous voulez, pour ça, je crois qu'il faut avoir un narratif commun, c'est-à-dire une idée de société harmonieuse que l'on veut construire à cet égard. Moi, un truc qui m'a beaucoup frappé, et j'imagine que Malo a dû faire la même chose, mais c'est quand j'ai été dans le Mittelstand, c'est-à-dire vraiment l'Allemagne productive, mais aussi dans l'Italie du Nord. Vous visitez une usine, je visitais pas mal d'usines dans ces coins-là, et en fait, à un moment, je me retrouve avec un groupe de personnes, et puis on me dit, bah voilà, les personnes qui vous font visiter l'usine, c'est lui, il vient de la direction de la production, et puis lui, c'est le patron du syndicat. Voilà, en France, c'est impossible, ça n'arriverait jamais, parce que la confrontation est telle qu'on ne chercherait pas à faire ce genre de choses. Et pourtant, cette logique-là fait que...
Ce qui vous a frappé, vous voulez dire, c'est l'alliance commune entre les deux ?
C'est les zones les plus productives au monde, en réalité. C'est-à-dire les zones des districti d'Italie lombarde, etc., c'est vous avez un PIB qui est à $90,000 par habitant, c'est extrêmement élevé, ça n'existe pas dans le reste de l'Europe. Et c'est cette capacité à repenser la façon dont on crée des systèmes productifs avec des nouvelles technologies qui a, entre autres, permis ce résultat. Donc, si vous voulez, c'est là où je dis on a tout pour le faire. C'est-à-dire que on a quand même un niveau de technicité en France qui est assez bon. On a, avec les travers que ça peut amener, une culture d'ingénieurs et des savoir-faire d'ingénieurs qui sont assez élevés. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on est parmi les pays les plus avancés au monde. Mais, si vous voulez, on va complètement ignorer cet aspect de qu'est-ce qu'on fait. Quand je parle de narratif collectif, c'est à mon avis ça qui est le plus important. À ce qui me concerne, je vais faire un peu de passion de produit, mais j'ai jugé que c'était tellement important que, avec le Conseil national du numérique, on s'est lancé dans un truc qui s'appelle Café IA. C'est un grand débat national autour de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas, on parle beaucoup de futur du travail. Hein. Il y a beaucoup de ce sujet qui est abordé là-dessus. Et ce qu'on essaie de dire, c'est, on est à un moment de réinvention. On a un moment de réinvention un peu comme en 1946, quand on a commencé à reconstruire ce pays, et où on a voulu, on l'a d'ailleurs refondé, le contrat social. L'URSSAF a été généralisé dans le gouvernement d'Union nationale. Donc c'est vraiment cet exemple-là. Et l'URSSAF, c'est un outil de productivité. Et donc, si on avait un peu cette intelligence collective, je pense qu'on serait capable de faire un truc qui serait différent de ce qu'on observe ailleurs. C'est-à-dire différent de ce qui se passe aux États-Unis où ces technologies sont très massivement extractives, mercantilistes, etc.
De créer un autre modèle, en sorte.
De créer un autre modèle. C'est ma conviction, mais vraiment une conviction très ancrée. C'est-à-dire que la diversité de ce qui est possible de faire avec ces technologies nous permet d'avoir un projet politiquement porté qui nous permet vraiment de nous différencier. Mais si vous voulez, on est rentré dans une logique d'abandon, de vassalité souhaitée et voulue, où on considère que finalement, ces technologies sont emmenées par ceux qui les ont créées et les mis à l'échelle, et qu'il n'y a plus d'alternative, ce qui est tout à fait faux.
Allô, Moffa Camille, vous parliez un peu plus tôt dans cette discussion de régulation, de nécessaire régulation, et dans le même temps, un discours qu'on entend énormément, c'est réguler, c'est brider l'innovation aujourd'hui, parce qu'on est à un moment clé, justement, à un moment où tout se joue, tout se fait, où l'innovation est en germe. Si on réglemente trop, alors on va empêcher que cette innovation se passe en France, et ce seront les Chinois, les Américains, les Indiens, que sais-je, qui innoveront à notre place. Alors comment, j'allais dire, réguler utilement et efficacement ?
Alors, je pense pas du tout que la régulation a un effet négatif sur l'innovation. En fait, ça peut même avoir un effet plutôt positif, c'est-à-dire en fait de canaliser les efforts d'innovation. En fait, la problématique, c'est que si vous voulez, en innovation, enfin dans les dynamiques d'innovation, vous avez le même problème que en politique, c'est le problème du court terme. C'est-à-dire que si vous êtes attaché au court terme, vous faites pas forcément les meilleures innovations. Vous pouvez faire des innovations qui ont un intérêt, mais il faut de la visibilité à long terme. Mmh. Et donc, la régulation a cet avantage de pouvoir donner un cadre. Et donc, on l'avait entendu notamment dans l'automobile, quand l'Union européenne dit bah voilà, maintenant il faut passer à l'électrification. Bah si on revient dessus quelques temps après, bah vous allez avoir un effet où finalement tous les investissements qui ont pu être faits, on va dire, bah, c'est plus. Donc, la régulation peut avoir aussi cet aspect positif de donner un cadre. On peut prendre l'exemple chinois où la Chine donne un cadre depuis longtemps sur des technologies d'innovation, s'y tient et commence à avoir des résultats. Le deuxième élément, c'est qu'il y a plein d'exemples qui montrent qu'en fait, le manque de taxation du capital ou le fait que, par exemple, il n'y ait pas de salaire minimum ou des salaires minimums trop bas, en fait, ça va avoir tendance à freiner les meilleures innovations. Parce que quand la taxation du capital est élevée ou quand les niveaux de salaire sont importants, ça oblige les entreprises à se dire
dire, bah, du coup, le travail coûte cher, il faut qu'il soit optimisé, il faut qu'il soit captif, c'est-à-dire qu'il faut que quand on paye un travailleur important, il faut qu'il se sente bien, qu'il soit pas en arrêt maladie, qu'il reste, et surtout, bah, il faut qu'on innove quand c'est pertinent. Et donc, du coup, permettre de mettre les capitaux sur les meilleures innovations, c'est aussi, enfin, ça peut passer aussi par une meilleure taxation. Ça, c'est un élément. Et puis après, la régulation, elle est aussi sur l'importance d'avoir un système, disons, à circuit cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, ces innovations-là, elles sont énormément supportées par des coûts sociaux. C'est-à-dire déjà, il y a l'éducation, l'investissement dans l'enseignement supérieur permet des innovations. Vous connaissez les travaux de Maria Mazzucato sur l'entrepreneurial state, où en fait, c'est l'État quand même qui entreprend beaucoup. La plupart de ces innovations ont germé dans des grandes universités de nos pays. Donc ça, ça nécessite des investissements que l'État a fait. C'est normal que l'État récupère une partie de ces investissements. Et donc, dans la logique partenariale entre ces universités et les entreprises privées, bah, il y a besoin de récupérer. Voilà, on peut penser aussi aux réflexions de mon collègue Gabriel Zucman sur une taxation minimale qui me semble indispensable pour éviter des effets...
Taxation minimale sur les très hauts revenus,
sur les très hauts revenus, pardon. Oui, voilà, tout à fait. Qui évite des effets de dumping ou de compétition qui, en fait, sont des moyens que les entreprises trouvent pour gagner de l'argent, mais pas en faisant des bonnes innovations, en fait, en essayant de détourner les capitaux.
Gilles Babinet, vous avez observé vous-même de près comment s'était construite au fil des mois cette régulation singulièrement européenne, hein, avec l'IA Act qui a été voté déjà il y a 2 ans, puisque je crois que c'était en décembre 2023. Pourtant, il était fort ce discours de « à trop réguler, on risque de brider l'innovation ». Comment est-ce qu'on l'explique alors ?
Oui, si vous voulez, c'est très difficile de trouver le juste milieu sur des sujets dans lesquels vous êtes en évolution absolument permanente. Donc effectivement, l'IA Act, à mon avis, un peu trop coercitif. Si vous voulez, je comme Malo,
vous le trouvez trop coercitif?
Oui, je le trouve trop coercitif parce que, si vous voulez, elle introduit une complexité qui est essentiellement bureaucratique et qui est pas forcément justifiée. C'est-à-dire qu'elle permet pas d'enrayer des risques absolus à cet égard, et ça revient d'acteurs qui sont pas forcément des acteurs conflictés, c'est-à-dire qui sont au milieu de ces OpenAI et autres entreprises. Donc ça, je pense que le problème de la Commission et des institutions européennes, c'est qu'elles reviennent rarement sur les textes qu'elles font, mais je crois que je voudrais pas qu'on comprenne que l'innovation n'est pas souhaitable, si vous voulez. Il y a un exemple qui est très simple, c'est celui des véhicules autonomes. C'est-à-dire les Américains ont, au début, en Californie, une régulation assez faible à cet égard. Il y a eu des morts dans les tests de ces véhicules, et il y a eu un rejet du grand public à l'égard de ces technologies. Donc, si vous voulez, la régulation, c'est aussi souvent un facteur qui fait de la productivité. Si je prends le domaine très simple du nucléaire, ben, on a eu une approche où les régulateurs n'ont pas été assez indépendants, aussi bien à Tchernobyl qu'à Fukushima. On a eu des accidents et on a perdu une génération. Donc on devrait être aujourd'hui en train de faire des neutrons rapides qu'on ne fait pas. Donc voilà, vous avez des destructions de productivité par absence de régulation, et dans le numérique, c'est plutôt des destructions de productivité par absence de compréhension d'où appliquer la régulation. Les régulateurs sont pas forcément très à l'aise avec ces sujets-là.
D'où la nécessité, on l'aura compris, de diffuser massivement cette culture de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les deux de cet état de l'art, si je puis dire, des connaissances et des attentes en matière d'impact de l'intelligence artificielle sur le vaste marché de l'emploi. Gilles Babinet, je rappelle que vous êtes co-président du Conseil national du numérique. Malo Mofakami, chercheur en sciences économiques, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du soir.